Chapitre 11. Dans le ménage béloqué, le mari ne faisait rien sans consulter sa femme. Mais la femme s'inquiétait peu de ce que pensait ou de ce que pouvait vouloir son mari. C'était elle qui pensait, c'était elle qui voulait. Quand elle avait pris une résolution, il était assez tôt pour l'en avertir. Ainsi, elle lui épargnait, et surtout, elle s'épargnait à elle-même les luttes, les inquiétudes, les hésitations qui embarrassent toujours et, trop souvent, paralysent un caractère irrésolu. Ce n'était donc point pour consulter son mari que Célanie avait ajourné Paulin au lendemain, c'était pour se consulter elle-même et, dans une affaire de cette importance, ne rien laisser aux entraînements du premier mouvement. Avait-elle une chance incroyable, cette idiote, de trouver un garçon qui voulut bien encore l'épouser après cette fuite dont il ne cherchait pas à comprendre les raisons? Il est vrai qu'il était remarquable aussi, cet épouseur qui avait foi en elle. Imbécile, va ! Elle était exaspérée autant contre l'un que contre l'autre. Ce n'est pas à une fille intelligente qu'arrivent ses bonnes fortunes. Elle avait été une fille intelligente et jamais elle n'avait trouvé un de ses épouseurs naïfs. Comme ils filaient, ses amoureux, lorsque se posait la question du mariage. Et cependant, elle n'avait point eu dans sa vie de fille à marier une aventure pareille à cette fuite nocturne. Cependant, elle était autrement jolie que cette Marichette qui n'avait guère que ses cheveux blonds et ses yeux noirs. Tandis qu'elle... Avait-on idée d'une pareille chance? Cette niaise était née coiffée. Et elle, qui ne se sentait aucune envie, aucune jalousie dans le cœur, eût été enragée de ce bonheur insolent s'il ne lui avait pas donné le moyen de fâcher Marichette avec le corsaire aussi sûrement que par le procès. Que dirait-il, le gredin, quand il verrait sa cousine épouser un ancien commis et cet ancien commis apporté dans la maison Belloquet jeune, où il aurait un intérêt, une partie de la clientèle qui lui aurait enlevée? Car tel était son plan. Marier Paulin Marichette, les établir à Criquefleur, prendre Paulin chez elle et, avec son aide, faire à Simon la concurrence sérieuse dont celui-ci l'avait si bêtement menacé. Perdre à la fois maîtresse, employé et client, n'y avait-il pas là de quoi le faire crever de rage? Comme elle s'était enthousiasmée pour le procès, elle s'enthousiasma pour le mariage, car c'était le propre de sa cervelle surchauffée et toujours en pression de produire projet après projet. Combien en avait-elle ainsi mis au jour depuis son enfance jusqu'à ce moment? Jeune fille pour se marier, mariée pour faire fortune, ennemie du corsaire pour se venger de lui. Et chacun de ceux qui avaient traversé son esprit était le bon, jusqu'à ce qu'un nouveau fût meilleur, n'ayant en cela aucun amour-propre d'auteur et faisant fi d'un vieux plan comme d'une vieille lune. Si elle n'épousait pas celui-ci, qui avait toutes les qualités du mari telles qu'elle le voulait à ce moment, c'en était fini, elle se jetait à la mer. Et le lendemain, c'était un autre qu'il lui fallait et qui serait cause de sa mort si elle ne réussissait pas. Heureusement, la chaudière fonctionnait toujours, et avant qu'elle pensât à se jeter dans la mer, un autre avait remplacé celui-ci et celui-là, en attendant qu'il fût remplacé lui-même. Quand, après avoir épousé en espérance tous les maris connus et inconnus que son imagination avait désirés, elle en avait été réduite à prendre Sylvain Belloc, elle avait été certaine que le métier de constructeur de maison lui donnerait rapidement une belle fortune. Puis, après, elle avait été non moins certaine que ce serait le commerce des liquides. Puis, après, plus certaine encore que ce serait celui des charbons. Maintenant, elle était certaine que le mariage de Marichette et de Paulin donnerait une attaque d'apoplexie au corsaire, la fameuse attaque sur laquelle elle spéculait depuis si longtemps. Il fallait donc que ce mariage se fît au plus vite et elle n'avait qu'à l'arranger avec Marichette. Il n'y avait pas à hésiter. Elle monta à la chambre de Marichette. Allait-elle être heureuse, l'idiote? Quelle chance pour elle! Elle était dans une étrange attitude, l'idiote, assise sur une chaise contre son lit, la tête enfouie dans ses draps, les mains appliquées sur ses oreilles. Que faisait-elle là? Sans doute, elle s'imaginait que Paulin était venu pour dégager sa parole et elle pleurait son mariage. Au bruit que fit Sélanie en entrant, Marichette leva la tête et montra son visage convulsé sur lequel se lisaient les souffrances de l'anxiété. « Est-il parti ? » demanda-t-elle d'une voix haletante. Sélanie prit une pause avant de répondre. « Oui, » dit-elle enfin. Marichette leva les bras au ciel. Après une nouvelle pause, Sélanie continua. « Mais rassure-toi, il reviendra demain à pareille heure. »« Demain ?» Il y avait un tel effroi dans ce cri que Sélanie ne put pas se méprendre sur son accent. Aussi resta-t-elle un moment interloquée, se demandant si décidément l'idiote était tout à fait idiote. « Je te dis qu'il reviendra demain, » répéta-t-elle. « Que veut-il donc ? T'épouser ?» Cette fois, ce fut un cri d'horreur qui s'échappa de la gorge de Marichette. « Es-tu tout à fait imbécile ?» demanda Sélanie. Mais Marichette, au lieu de lui répondre, se cacha le visage entre ses mains et se mit à pleurer, répétant « Oh, Paulin, Paulin !» Ce n'était plus de l'effroi et de l'horreur, c'était un attendrissement déchirant, un élan d'amour désespéré. « Eh bien oui, il t'aime toujours, ton Paulin, » dit Sélanie, « et si passionnément qu'il m'a demandé ta main. Voilà de l'amour. »«
Hélas !»
Tu m'exaspères avec tes cris et tes « hélas !» Que veux-tu de plus ? Ce garçon est si bon garçon et il t'aime si bien qu'il ferme les yeux et ne cherche pas à savoir pourquoi tu as quitté Saint-Maclou. N'est-ce pas assez beau ?
Comme il m'aime !
Franchement, oui, et tu peux t'en vanter comme tu peux t'applaudir de la lettre que tu lui as écrite. C'est elle qui te l'amène.
Je lui ai demandé de ne pas chercher à me voir.
Et naturellement, il a voulu te voir. C'était bien calculé. Marichette regarda sa cousine d'un air vague.
« Ne prends donc pas ces airs-là avec moi, » dit celle-ci. « À quoi bon ? Si tu veux m'amener à consentir à ce mariage, c'est inutile, attendu que je ne suis pas assez bête pour ne pas comprendre tout de suite et toute seule de quel avantage miraculeux il est pour toi. Je ne me fais pas d'illusions sur Paulin Moreau. » C'est un garçon sans position et qui n'a pas grand-chose à offrir à sa femme, rien dans le présent, on ne sait pas quoi dans l'avenir. Mais il t'offre d'être sa femme et c'est là pour une fille dans la situation où tu te trouves quelque chose de si beau, de si extraordinaire, de si merveilleux que je ne peux pas ne pas sauter sur ce mariage. C'est un vrai sauvetage pour toi, une de ces chances comme on n'en voit pas. « Tous mes compliments, tu les dresses bien, tes amoureux, avec ton air innocent. » Marichette écoutait interdite.
« Vous voulez que j'épouse Paulin ? » murmura-t-elle. Sélanie réprima le mouvement de colère provoqué par cette hypocrite demande.
« Tu sais bien que nous ne voulons que ton bonheur, » dit-elle. « Mais vous m'avez dit que je peux être enceinte, » balbutia Marichette en détournant la tête.
« Justement, ce mariage donne un père légitime à ton enfant, si tu en as un. » Marichette resta un moment sans répondre, cherchant à comprendre évidemment les mots qui venaient de frapper son oreille sans pénétrer dans son esprit.
« Mais Paulin ne pourrait pas être le père de cet enfant. »
Sélanie s'impatienta. « Tu t'arrangerais pour qu'il pût croire qu'il l'est, » dit-elle. Si Marichette n'alla pas jusqu'au fond de ce mot, d'une profondeur insondable pour elle, cependant, elle entrevit une partie de ce qu'il disait.
« Je tromperai Paulin ? » s'écria-t-elle.
« Il t'aime. » Du coup, Marichette resta stupide.
« Tu m'agaces à la fin !» s'écria Sélanie, « avec tes airs de Sainte-Nitouche. C'est bon avec Paulin, c'est même très bon puisque ça réussit. Avec moi, ça ne mord pas. » Ce garçon t'aime, tu l'aimes, mariez-vous.
C'est parce qu'il m'aime, c'est parce que je l'aime que ce mariage est impossible. Je ne sais quel calcul vous supposez, je n'en ai fait aucun. J'ai écrit à Paulin en toute sincérité, le cœur brisé mais résolu, que nous ne devions pas nous revoir en ce moment et nous ne nous verrons pas.
Et si tu es enceinte ?
Je serai déshonorée.
« Es-tu vraiment idiote ?» s'écria Sélanie en la secouant avec fureur. « Ne comprends-tu pas qu'en acceptant ce mariage tout de suite, il te sauve de ce déshonneur et sauve ton enfant ? Faut-il donc que je te dise ?»«
Rien !»
interrompit Marichette avec une énergie désespérée que Sélanie ne lui connaissait pas.
« C'est à moi que vous pensez. Moi, c'est à mon amour et c'est à Paulin. Je suis la plus malheureuse des filles. J'en serais la plus misérable, la plus honteuse si j'acceptais ce mariage. » Advienne de moi ce que Dieu voudra, je ne souillerai pas mon amour, je ne tromperai pas Paulin. »
Tout ce que put dire Sélanie fut inutile. À la colère, aux menaces, aux prières, Marichette opposa toujours le même mot.
« Je ne tromperai pas Paulin !»